Nous accueillons Mylène maintenant au 39-21. Bonsoir Mylène.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Mylène. Alors, nous nous étions parlé il y a à peu près un mois pour partager une situation de détresse dans laquelle vous trouvez avec votre famille dans le 92, à Vanves exactement. Vous êtes retrouvé propriétaire donc d'un appartement dans une petite... un petit immeuble, une petite résidence de, si mes souvenirs sont bons, de 4 appartements. Vous êtes retrouvé dans une zone de préemption par la mairie. Ça veut dire que la mairie a préempté ces appartements. La mairie a acheté 3 de ces appartements et elle ne vous a pas, pour l'instant, racheté le vôtre, mais sont venus habiter dans ces appartements puisque ces appartements se sont transformés en appartements sociaux, hein, en résidences sociales, sont venus habiter dans ces appartements des personnes. Et vous avez vous affronté notamment un de vos voisins qui vous a insulté, agressé plusieurs fois. Et vos enfants, dont votre petit garçon, est terrorisé hein, depuis un long moment maintenant. Quand je dis terrorisé, c'est que il a développé des angoisses chroniques qui vous ont amené à le faire suivre à l'hôpital Necker. On est là dans une situation absurde, aussi bien que pénible et douloureuse pour vous parents, pénible pour vous propriétaires, car on ne comprend pas du tout l'attitude de la mairie de Vanves. Et je tiens à nouveau, avant que vous nous expliquiez un nouvel épisode qui vous est arrivé hein, il y a à peine 48 heures, me semble-t-il, ou 72 heures, je tiens à dire combien, à l'époque, quand vous avez témoigné sur cette antenne, nous ne comprenions pas l'attitude de cette mairie qui semble jouer la montre, en tout cas c'est ce que ça laisse penser, pour que le prix baisse, alors que cet appartement il a un prix, il a été évalué à un prix, et que vous voulez maintenant le vendre depuis bien longtemps, et que ça ne se fait pas aux dépens de votre santé, aux dépens de votre vie professionnelle, et aux dépens, ce qui est... le plus grave dans cette histoire, au dépend de la santé de l'un de vos enfants et des autres, bien évidemment, mais notamment d'un petit bout. Je sais que vous avez eu Florian hier et j'ai demandé à Florian que nous puissions échanger ce soir, car on est encore dans l'escalade dans votre histoire. Racontez-moi ce qui vous est arrivé, Mylène.
Oui, j'ai un peu la gorge nouée. Pour tout vous dire, j'ai dû m'asseoir parce que j'avais plus de jambes, en fait, à la perspective de vous parler.
Je dois préciser,
très émue ce soir.
Je dois préciser, en plus, que vous avez été contraint, hein, vu le niveau de violence et les agressions à répétition, vous avez été obligé de déménager, en tout cas de partir de cet appartement et d'habiter ailleurs, hein, parce que pour votre petit, ça n'était plus possible. Il était terrorisé.
Oui, en fait, effectivement, mon fils, mes 3 enfants sont très, très, très affectés, terrorisés par ses voisins. Parce qu'en fait, il y a deux voisins, 2 locataires. Et en fait, ces 2 voisins sont devenus extrêmement violents à notre rencontre et à l'encontre de nos enfants, notamment au mois de juin, ce qui a provoqué une crise de convulsion sévère pour mon fils qui a 5 ans, qui a dû être hospitalisé en neuropédiatrie pendant 72 heures. Et qui a poussé les médecins à nous dire qu'il fallait partir, extraire nos enfants, nous extraire nous aussi. Et c'est vrai qu'on a dû partir depuis la mi-juin en fait, de cet appartement. Et on a déménagé la veille de la rentrée scolaire dans une autre commune, dans un petit meublé, pour que nos enfants puissent reprendre l'école sans passer une seule nuit dans cet appartement, puisque c'était presque une injonction, une alerte des médecins qui entourent nos enfants.
Quel est le profil de ces 2 voisins, dont l'un est particulièrement violent, hein. Quel est leur profil?
C'est compliqué, en fait. Effectivement, alors, ce ne sont pas des logements sociaux qui ont été mis en place, c'est des conventions de logements d'urgence. Donc, c'est censé être des logements un peu tremplin pour permettre à des personnes de repartir dans la vie suite à des accidents ou des situations compliquées. Donc il y a une première famille en fait qui est arrivée il y a 5 ans maintenant, qui est d'origine syrienne. Et en fait, au début, les choses se passaient relativement bien. Enfin, en tout cas, nous, on était plutôt très contents qu'il y ait une famille dans la copropriété. Voilà, je trouve que pour les enfants, c'est toujours sympa. Donc, on a essayé de faire en sorte que ça se passe bien. En fait, on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait des difficultés de compréhension et des difficultés à cohabiter ensemble et qu'ils n'étaient pas en capacité d'écouter voilà, les choses qu'on leur demandait, qui étaient assez, assez simples. Et en fait, il y a eu une escalade en fait, dans la posture notamment du père de famille, qui est très agressif, très impulsif, qui refusait que moi, en tant que femme, je dise quoi que ce soit. Et après, ça s'est transformé en des agressions verbales, jusqu'à effectivement menaces de mort et d'être frappée voilà, au mois de juin. Mon mari a été bousculé et où il y a eu un rappel à la loi de ce monsieur. Donc à l'origine, voilà, c'est une famille d'origine syrienne qui est en France et où en fait il y a progressivement, je pense au sein de la copropriété, une montée de la violence et peut-être un sentiment d'impunité au fur et à mesure qu'il y a une escalade, puisque la mairie en fait n'intervenait pas au fur et à mesure, qui fait que tout est permis et que jusqu'à menacer des gens d'être frappés devant des enfants en bas âge, menacés de mort, bousculés, voilà. Voilà, et ça c'est presque incompréhensible. Et puis l'autre profil, voilà, c'est une personne une personne qui vivait dans un camion depuis une dizaine d'années et qui vraisemblablement a des difficultés pour vivre en collectif et qui conjugue de l'instabilité, de l'agressivité, de la violence. Et qui est dans un autre monde, en fait, qui peut nous dire qu'il va nous crever les yeux quand il partira, qui peut nous menacer de mort, de nous faire la peau, de nous casser la gueule. Et pour lui, c'est pas des menaces, en fait. Donc, c'est de l'ordre de l'irrationnel. Voilà. On vit dans des mondes complètement distincts où en fait il n'y a pas de communication qui est possible, si ce n'est effectivement de l'agression, de la violence, auquel nous on s'est toujours refusé à répondre parce que ce n'est pas notre mode de fonctionnement, mais à laquelle on est confronté, on fait face et on subit. Et donc effectivement, on ne vit plus dans cet appartement depuis la mi-juin. Et malgré tout, par nécessité, il a fallu en fait. Le 1er octobre dernier, que je revienne à mon domicile pour prendre des affaires. Et à cette occasion, en fait, on a été, mon mari et moi-même, agressés par ce voisin du rez-de-chaussée. Mon mari, voulant me protéger, a été blessé à la main et a dû se faire opérer en urgence lundi. Donc, ça date de quelques jours.
Comment s'est-il blessé à la main ?
En fait, ce monsieur a commencé à menacer, était avec des insultes, des menaces, s'est approché de moi et mon mari s'est interposé. Il a été blessé à la main au niveau du tendon. Donc il y a une blessure grave au niveau du tendon du pouce qui a nécessité en fait une chirurgie. Et aujourd'hui, donc il a été opéré, il a 4 mois d'ITT parce qu'en fait il peut plus. Il a la main immobilisée.
D'accord.
Donc, ça a été un épisode de plus dans notre histoire, puisque on a dû effectivement appeler la police qui est intervenue, porter plainte, faire un complément de plainte, puisque moi j'ai 2 plaintes qui sont en cours d'instruction. Mon mari a dû également porter plainte. Et on se retrouve dans la situation où c'est un nouvel élément de la situation qui s'aggrave et qui ne fait pas bouger monsieur le maire de Vanves, monsieur Gauduchot. Mon mari a écrit au maire un courriel via le site internet pour crier notre détresse, expliquer ce qui s'était encore passé, la violence qu'on subit, la détresse, les insultes, qu'on était au bout, qu'on était à genoux. Qu'on ne voulait pas vendre, qu'il y a un an, on s'est décidé à vendre parce qu'on n'en pouvait plus, et qu'aujourd'hui, on est à terre, on est financièrement à terre, psychologiquement à terre. Enfin, moi, je suis très affectée parce que depuis cet épisode, mon fils Jack recommence à nouveau à avoir des crises d'angoisse qui se manifestent principalement au moment du coucher, mais qui sont inquiétantes. On ne sait pas ce qui se passe. On sent que voilà, il y a ce choc traumatique qui reste présent malgré tout ce qu'on essaie de mettre en place, malgré les suivis de psychologues et les médecins qui nous entourent. On sent que c'est d'une fragilité extrême et ça me fait sombrer parce que je me sens impuissante à le sécuriser malgré le fait qu'on n'habite plus sur place. En fait, c'est d'une fragilité extrême et c'est une déchirure pour moi en tant que maman de ne pas réussir à sécuriser mes enfants. Et quand je dis sécuriser, c'est dès qu'il se passe quelque chose maintenant dans leur vie qui les inquiète, tout rappelle les voisins. Est-ce que les voisins vont venir dans la copropriété dans laquelle on est? Est-ce que les voisins sont gentils? Est-ce que le voisin va nous retrouver? Est-ce qu'il sait où on habite? Voilà, c'est des questions récurrentes de mes enfants, qui montre à quel point le traumatisme, il est là, il est présent, il est d'une fragilité. Et j'ai pas d'emprise là-dessus. Et en parallèle, rien ne bouge, rien ne se passe, malgré la violence qui continue. Mon mari qui est blessé, en incapacité. Aujourd'hui, avec 3 enfants, c'est extrêmement compliqué. Le maire est interpellé, l'ensemble du conseil municipal a été interpellé. Personne ne bouge, il ne se passe rien. Et je ne sais plus quoi faire, je ne vois pas le bout du tunnel.
Est-ce que vous êtes revenu vers la mairie de Vanves, en fait? Est-ce que vous avez eu des échanges depuis, vu la situation?
Alors, en fait, on a fait un courrier au retour des vacances, on a fait un courrier recommandé, reprenant les échanges qui avaient eu lieu lors d'un entretien physique avec M. Gauduchot, le maire de Vanves, et son adjointe en charge de la famille et de l'action sociale. On a repris l'ensemble des éléments qu'on avait livrés, notre détresse, la situation de violence, les certificats médicaux, les plaintes. Et donc, aucune décision n'a été prise, puisque les voisins, en l'occurrence, leur convention de relogement a été renouvelée pendant l'été. Donc, ils ont été maintenus dans les lieux, malgré les échanges. On a eu un courrier qui accusait réception de notre courrier. Donc, nous, on demandait une prise de décision, un retour. On a eu une simple accusée réception de notre courrier. Et suite à cette agression, cette nouvelle agression et la blessure de mon mari et cette violence, mon mari a fait un mail à M. Gauduchot via l'interface du site de Vanves et à l'ensemble des conseillers municipaux pour à nouveau décrire notre détresse, la violence, parce que c'est quand même un voisin qui nous dit qu'il va nous arracher les yeux quand il va partir, qu'il va nous retrouver, qu'il va nous défoncer la gueule, c'est des insultes. Plus de la violence. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais mon téléphone pour filmer parce que on est dans cette contrainte-là pour être passé par des dépôts de plainte où il faut expliquer la situation. Donc, il faut montrer quelle est la violence, il faut qu'il y ait des éléments. Donc, je rentrais chez moi, j'avais mon téléphone contre moi au cas où. Et donc, mon mari a fait un courriel à l'ensemble du conseil municipal et nous n'avons pas eu de retour, si ce n'est des conseillers municipaux de l'opposition. Ils étaient évidemment extrêmement choqués et qui nous ont dit reprendre contact avec M. le maire. Mais aujourd'hui, on en est là. On en est dans cette situation d'impasse. Je ne vois pas d'issue à notre situation et je vois notre santé se dégrader parce que quand on s'est agressé, c'est aller porter plainte et encore on a 2 plaintes en cours, donc il y a une écoute et une compréhension de notre situation, mais c'est une épreuve, c'est un parcours médical et jusqu'à la chirurgie Aujourd'hui, c'est remettre le nez dans tout ça et sentir qu'on est abandonné, en fait. Que rien ne fait réagir, rien ne fait bouger la situation et qu'il n'y a pas de solution. Et qu'à côté de ça, mes enfants voient leur papa blessé, donc ils se demandent ce qui s'est passé. Évidemment, on a caché la situation, mais ça réveille, je pense, des angoisses, des inquiétudes qui ont un impact direct sur leur santé.
Ouais, et vous n'en voyez pas le bout, hein. J'entends que ça n'a pas beaucoup évolué depuis le début.
Non. Rien n'avance. On n'a aucune écoute, aucune prise de décision, aucune prise de décision pour que cette situation cesse, pour qu'on arrête de subir cette violence, pour que l'établissement public foncier se mette autour d'une table pour clore ce dossier, pour que nous, on sorte de cette impasse, de cette situation. Rien ne se passe, rien ne bouge. Moi, j'ai recontacté les équipes de Madame Valérie Pécresse, qui est encore, jusqu'à ce qu'elle soit appelée à d'autres mandats, présidente de l'établissement public foncier. Je n'ai plus de retour. Voilà, j'ai partagé mon témoignage sur Europe 1 en expliquant que j'aimerais que Madame Valérie Pécresse soit en capacité d'écouter ce cri que je lançais à l'antenne. Je n'ai eu aucune réponse. Suite à l'agression de mon mari. Il ne se passe rien.
Jean, au 739-21, vous demande si vous vous êtes rapproché d'un avocat. Je ne me souviens pas que vous ayez entamé la moindre procédure devant la justice.
Non, aujourd'hui, on a un avocat en fait, avec qui on avait pris contact sur la partie urbanisme, parce que c'est extrêmement compliqué. On a enfin compris ce qui se passait, ce que c'était que la tension renforcée. On a cru au début que c'était le projet du Grand Paris, le tunnelier. Enfin, on ne pensait pas du tout que la mairie avait ce type de projet et d'approche. On a mis beaucoup de temps à comprendre ce dossier. Et en fait, on s'est rapproché d'un avocat spécialisé en urbanisme et en droit public pour prendre contact avec la mairie, signifier notre volonté de vendre en expliquant qu'on était forcé à le faire parce qu'on subissait une situation intenable. Et ils nous ont orientés après dans les échanges avec l'EPF. Donc on a aujourd'hui un avocat qui a en face de lui un établissement public foncier qui se lave les mains de ce qui se passe et qui décorrèle la situation, le contexte de violence, la gestion de la mairie, alors que la mairie, le donneur d'ordre initial, se lave complètement les mains et s'arrange en décorrélant les choses, bien sûr, pour ne pas avoir à justifier de nous faire attendre et de faire pourrir le dossier. Mais c'est ce qui se passe, c'est la réalité. Donc cet avocat nous aide sur cette partie, en nous expliquant que le problème, c'est que l'EPF et la mairie font tout pour décorréler les sujets. Donc on va dire que de manière très froide et très rationnelle, c'est le sujet du prix de l'appartement, de l'achat de l'appartement qui se joue. Et à côté, il y a effectivement aujourd'hui tout le volet pénal et civil de la responsabilité du maire de Vanves, qui aujourd'hui est celui qui décide de signer en toute connaissance de cause ces conventions de logement, de les renouveler sans tenir compte du fait qu'il y a de la violence au sein de la copropriété à notre encontre, et sans exiger aucune démarche de la part de ses locataires de constituer des dossiers de logement, j'imagine le chemin qu'on doit parcourir quand on est face à des difficultés. C'est aussi de faire constituer des dossiers pour faire des demandes de logement pour la suite, en fait. Et aujourd'hui, on est face à des personnes qui sont reconduites dans leurs conventions, quoi qu'il se passe, et à qui on n'exige pas de faire des démarches pour trouver un autre logement. Là, toute la difficulté, aujourd'hui, on est en recherche pour retrouver un avocat conseil à même de porter ce dossier qui est complexe, qui devient de plus en plus complexe.
Oui. Et quel type de démarche, en fait, vous allez entamer? Est-ce que vous allez porter plainte? Si vous portez plainte, vous pouvez porter plainte contre la mairie aussi, ou pas? Est-ce que vous avez des éléments pour porter plainte contre la mairie?
En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un achat à la découpe qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la copropriété est petit à petit rachetée, appartement par appartement, et la copropriété, qui était une copropriété classique. Enfin, alors, il y a le terme bourgeois qui est historiquement, je crois, dans les règlements de copropriété, mais qui n'a rien de... Voilà, on n'est pas dans une copropriété bourgeoise au sens strict du terme, et progressivement dénaturée pour devenir une copropriété de logement d'urgence. Et ça, ça c'est un problème parce que c'est quelque chose qui questionne sur la légalité de cette action. Et puis après, il y a aujourd'hui les violences qu'on subit, les préjudices aujourd'hui qu'on a, qui est qu'aujourd'hui on a un prêt immobilier qui court, sur lequel on a un remboursement, qu'on continue à assumer, et un loyer aujourd'hui qu'on paye, et qui font que financièrement, c'est, pour nous, c'est la catastrophe absolue. Donc il y a à la fois les préjudices corporels, psychologiques, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est la santé psychologique de mes enfants, de mon conjoint et de moi-même qui sont les éléments les plus... important à mes yeux, qui est que comment ne pas sombrer. Enfin, moi, je vous parle, mais il y a deux jours, j'étais en pleurs. Enfin, je savais plus quoi faire et j'étais dans une détresse sans perspective. Je n'en ai pas, mais je passe par des moments de désespoir profond où je vois pas d'issue, très clairement. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est notre santé à nous, la santé de mon mari, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu cette agression, on a passé un cap dans la violence. Et puis il y a cette situation financière où aujourd'hui on est, nous, devenus précaires dans notre vie au quotidien, c'est devenu extrêmement difficile.
Cette précarité, elle se traduit comment aujourd'hui, Mylène?
Par quoi? J'ai un reste à vivre négatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je consomme, je m'endette pour vivre. J'ai un emprunt. Mon mari a été entrepreneur, mais avec la crise du Covid, c'était déjà pas une activité dont il pouvait vivre. Donc aujourd'hui, il ne vit pas de son activité. Donc on est dans une situation où financièrement, c'est très difficile au quotidien. On a un reste à vivre qui est négatif. Qui est négatif dans le sens où on conjugue le fait d'avoir un emprunt à rembourser, à honorer, et un loyer pour un appartement meublé sur lequel on a pris des engagements pour mettre à l'abri nos enfants. Et donc, une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus d'argent. Il n'y en a déjà même plus une fois qu'on a payé le prêt. Donc aujourd'hui, c'est une situation où on ne pourra pas rester comme ça pendant des mois et des mois.
Et vous allez à un moment vous retrouver très endetté, en fait. Cet appartement, rappelez-moi, dans quelles conditions vous voulez le vendre, en fait, et quelle a été l'attitude de la mairie par rapport à cette vente, parce que je n'en ai plus le souvenir, mais vous proposiez un prix qui a été évalué comme n'importe quel appartement. Comment ça s'est passé entre vous et eux?
La mairie n'intervient pas du tout dans les échanges, enfin, se désolidarise complètement de ce sujet. Donc, en fait, il confie les échanges à l'établissement public foncier, qui, en fait, aujourd'hui, on va dire, nous, on a acheté il y a 8 ans. Aujourd'hui, pour évaluer la valeur d'un bien, ils partent en fait de la valeur. Aujourd'hui, ce qu'ils nous proposent, c'est un montant qui est inférieur. En fait, ils partent du montant qui est inférieur à ce qu'on a, l'appartement, le montant auquel on a acheté l'appartement il y a 8 ans. Mmh. Quand on voit la flambée des prix en Ile-de-France et les difficultés pour se loger, on n'est même pas dans un sujet de pouvoir potentiellement faire une plus-value sur un appartement. C'est juste qu'en fait, on part déjà sur une proposition, une approche qui fait qu'on est en incapacité de se reloger, en fait, tout simplement. Le sujet est très vite réglé. C'est qu'on n'est pas du tout dans une réalité de la vie pour pouvoir se loger aujourd'hui au quotidien. À partir de là, c'est complètement déconnecté de la réalité, du quotidien des gens. Le quartier, je ne parle même pas du quartier qui a effectivement flambé. Nous, on ne peut plus du tout vivre dans ce quartier, c'est fini. On ne pourra plus jamais vivre avant, c'est terminé. On est traumatisé par cette ville, on ne peut même plus y passer. C'est les démarches qu'on a à faire quand on va au commissariat et après on est révulsé par ce quartier, c'est viscéral maintenant. Donc il y a une arrivée de promoteurs qui a fait flamber les prix. Donc nous, on n'est pas dans ce registre-là. Nous, on est aujourd'hui à contester le fait qu'on a acheté un appartement il y a 8 ans dans lequel on se projetait de vivre et de construire une famille, d'élever nos enfants, de pouvoir continuer à avoir une proximité par rapport à nos lieux de travail, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, les conditions qu'on nous propose, et enfin en tout cas les conditions de base sur lesquelles l'EPF réfléchit, sont complètement décorrélées en fait du marché immobilier. Donc c'est inacceptable. Et pas inacceptable au sens de vouloir gagner de l'argent, c'est inacceptable dans le sens de pouvoir repartir sur quelque chose, de pouvoir se reloger correctement aujourd'hui. Donc à partir de là, en fait, on est dans une approche qui est intenable. Les échanges, en fait, nous ont demandé, on a mandaté une experte judiciaire pour évaluer notre appartement. Une experte judiciaire, c'est quelqu'un qui est mandaté auprès des tribunaux. Elle est là notamment pour intervenir dans des procédures. Donc elle engage aussi sa responsabilité. Et donc on s'est tourné vers une personne pour pouvoir faire une évaluation. Et aujourd'hui, l'EPF s'acharne à démonter ce dossier-là en prenant des références de transactions que eux opèrent par ailleurs à chaque fois dans des contextes, soit de rachat d'appartements ou de maisons dans le cadre de succession. Ou des achats d'appartements de personnes âgées qui aujourd'hui sont dans des situations de fragilité, qui ne savent pas ce que c'est que la préemption, qui confondent avec l'expropriation. Donc en fait, les transactions, elles sont volontairement basses. Donc en fait, ils ne prennent pas les références marché, ils prennent les références qu'eux opèrent en fait, avec leurs pratiques à eux, qui font qu'on est sur des marchés qui sont décorrélés en fait et qui ne sont pas du tout face à la réalité du quotidien de franciliens qui doivent se loger aujourd'hui dans un marché qui est avec des prix extrêmement tendus, extrêmement élevés.
Et comment vous expliquez que, parce que votre résidence, il y a bien quatre appartements, hein, vous m'aviez dit.
Oui. Oui, tout à fait.
Comment se fait-il qu'il ne vous ait pas racheté le vôtre, en fait, qu'il n'ait pas racheté les quatre en même temps?
Bah parce que c'est, je pense, plus facile de désolidariser et de fonctionner à la découpe, je pense.
D'accord.
Je pense que c'est plus facile de racheter à la découpe que effectivement de s'adresser à l'ensemble d'une copropriété pour racheter l'ensemble de la copropriété avec la particularité que notre copropriété en fait a un très grand jardin collectif. Et donc il y a un espace d'extension de bâti qui est extrêmement important. Et que s'ils avaient eu une approche globale, ils auraient certainement dû avoir une approche sur l'ensemble de la parcelle, ce qui fait monter forcément les prix. Puisque le maire de Vence, en fait, a modifié. C'est un peu technique, mais j'ai appris beaucoup en lisant la documentation, a modifié ce qu'on appelle le PLU, c'est le plan local d'urbanisme.
Oui.
Pour étendre en fait la capacité de construction dans l'aménagement aux abords des gares, ce qui fait que demain notre parcelle qui n'héberge que 4 appartements, demain ça sera un très grand ensemble d'habitations ou autres avec les revenus fonciers associés pour la commune. Donc je pense que c'est plus facile d'y aller petit à petit.
D'accord. Là, au moment où on se parle, la situation est bloquée. Vous avez l'espoir quand même qu'à un moment, ils se vendent là, dans les mois qui viennent, dans les 6 prochains mois, où vous n'avez aucune visibilité?
J'ai aucune visibilité.
Aucune.
J'ai un avocat qui est mobilisé, voilà, qui est compétent, je pense, en qui on a confiance, mais qui est face à un organisme qui volontairement peut prendre tout son temps pour nous faire mariner,
Oui.
nous faire subir cette situation, tout le temps qu'il voudra, jusqu'à temps qu'on lâche, en fait. C'est un peu ça le problème.
Une auditrice nous demande si vous avez bien étudié l'assurance qui couvrait le crédit pour l'achat de cet appartement, car sa réflexion est très bonne. Le bien que vous avez acheté à cette époque ne ressemble absolument plus à celui qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire l'environnement a changé. Et il a sans doute impacté même la valeur de cet appartement. Est-ce que vous vous êtes renseigné auprès de l'assurance qui couvrait le crédit de
Oui,
l'achat?
alors on est en train effectivement, parce que là, comme on devient financièrement acculé, effectivement, c'est une des pistes qu'on est en train de voir pour pouvoir temporairement peut-être suspendre notre crédit. Donc ça, c'est effectivement une piste pour pouvoir tenir encore le coup pendant quelques mois. C'est une piste qu'on est en train de voir, effectivement. Après, ce que je tiens à dire, c'est que c'est vrai qu'on se bat avec mon mari pour que justement la valeur de notre bien, en fait, il y a une volonté effectivement manifeste de tout faire pour que la valeur de notre bien diminue, hein.
Oui.
Voilà, alors, en étant quelqu'un qui dégrade, qui par sa présence bah, nous empêche même potentiellement de louer l'appartement. Aujourd'hui, c'est cette réalité, hein. C'est que nous, propriétaire, on n'est pas en capacité de mettre en location notre appartement, exposer des locataires à la violence de personnes de cette nature, c'est pas quelque chose d'envisageable. Mais c'est vrai qu'on se bat aujourd'hui pour dire que, voilà, malgré la volonté de la mairie de visiblement porter atteinte à la valeur de notre bien, dégradant et en transformant la copropriété en logement d'urgence. Aujourd'hui, c'est une copropriété où on s'est battu pour qu'elle soit entretenue, pour refaire les parties communes, pour chaque jour faire en sorte que le bien ne soit pas dégradé. Voilà, on se bat au quotidien pour justement faire que cette copropriété ne perde pas de sa valeur, parce que c'est un impératif pour nous, en fait. Donc c'est toute la difficulté aujourd'hui, en fait, voilà, de ne pas lâcher, mais on est à bout de force.
Julia, notre collaboratrice, me demandait si, au-delà des services de Mme Pécresse, vous aviez fait appel à d'autres politiques.
Oui, alors on a sollicité Mme la députée, Mme Provendier, la députée du 92, qui a été très touchée parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé pour les enfants. Par le passé, je sais qu'elle a eu un engagement associatif assez fort. Et donc, moi, je lui ai parlé vraiment de mes enfants, de notre détresse. Donc, aujourd'hui, elle est sensibilisée à notre situation. On l'a rencontrée. Je la tiens informée. Elle est au courant de la situation. Je pense qu'elle essaye de s'entretenir avec M. Godichaud. En tout cas, qu'elle essaye d'avoir des démarches en ce sens. Mais... comme il l'a rappelé, hein, c'est lui qui est décisionnaire sur ce dossier. Donc c'est là où c'est extrêmement compliqué, je ne vous cache pas. Moi, j'ai alerté le préfet du 92. Je me suis entretenue avec les collaborateurs du préfet. Mais c'est compliqué. Les relations entre le préfet et le maire, ce n'est pas des relations... de hiérarchie sur des sujets de cette nature. Donc, voilà, moi, j'alerte. Aujourd'hui, très honnêtement, et c'est pour ça aussi que je suis vraiment touchée ce soir et que c'est difficile pour moi de vous parler.
Je me doute.
Êtes les seuls, en fait, vous êtes les seuls qui, aujourd'hui, vous mobilisez ou en tout cas ouvrez cette
porte. Écoutez, c'est normal qu'on vous prête attention.
Pour faire parler d'un histoire et ouvrir peut-être des pistes ou des faire bouger les lignes parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a rien qui ne semble en fait faire changer cette situation. Et je me dis, mais jusqu'où il va falloir que ça aille en fait ? Quelle est la limite qu'il va falloir atteindre pour qu'il se passe quelque chose ?
Oui. C'est-à-dire que si vous voulez, votre histoire nous a touchés parce que comme d'autres histoires d'ailleurs hein, sur cette libre antenne, mais à partir du moment où vous nous avez appelé et que on entend l'histoire d'une petite famille, un couple qui se bat, qui travaille, qui a du mérite, hein, comme tous les couples et tous les couples qui travaillent pour rendre heureuse leur famille, l'équilibrer, et que du jour au lendemain, sans qu'il n'ait la moindre emprise sur ce qui va arriver ou ce qui arrive, eh bien, dont la vie bascule. Et c'est ça qui est rageant dans votre histoire, c'est qu'on a quand même en face une mairie, parce que c'est tout de même cette mairie qui est en cause, cette mairie de Vanves, qui préempte comme ça et qui achète des appartements. Et c'est très bien, cette initiative, à la base, elle est bonne, de créer des logements sociaux. C'est de toute façon quelque chose que nous encourageons, nous, ici. Mais on ne peut pas, d'un seul coup, faire à moitié les choses. Et c'est ce qui est arrivé. On ne peut pas mettre une famille avec de jeunes enfants, avec des appartements sociaux, et d'un seul coup, des gens qui, en plus d'être dans des problèmes souvent très compliqués, vont mal se comporter avec celles et ceux qui étaient là avant. C'est ce qui nous touche dans votre histoire, c'est que vous n'avez rien demandé à personne, vous étiez heureux, vous étiez bien dans cet appartement, tout roulait, et puis du jour au lendemain, allez. Dans un bureau, c'est décidé qu'on préemptait, qu'on allait acheter ces appartements, mais à ce moment-là, si on fait bien le boulot à la mairie de Vanves, eh bien nous, on pense ici qu'on achète les 4 appartements, mais qu'on ne plonge pas toute une famille... Dans l'embrouille comme ça, et surtout on ne met pas en péril la santé d'enfants et même l'intégrité physique d'une famille, parce que il en va de votre intégrité physique, et on l'a vu puisque vous avez été agressé à plusieurs reprises. Donc pour sûr, nous ne lâcherons pas cette histoire, ma chère Mylène. Nous rappellerons à ce monsieur qui est maire de Vanves et à tous celles et ceux qui travaillent autour et notamment qui sont responsables de ce secteur, que nous suivrons de près cette histoire parce qu'il est hors de question qu'on vous laisse tomber. Et si nous sommes les seuls, au moins vous nous avez, nous, Mylène.
Non, mais
on est là. D'accord.
Ouais, mais je vous remercie. Et en tout cas, je voulais juste préciser par rapport à ce que vous expliquez, c'est que effectivement, moi, je remets pas du tout en question le sujet de proposer des logements d'urgence et avant qu'il y ait ce locataire au rez-de-chaussée, notamment extrêmement violent. Il y avait une jeune femme qui était dans une situation très difficile et avec qui ça s'est bien passé et que paradoxalement, la mairie a incité à faire partir très très vite, à ne pas s'installer, à faire ses demandes de logement. Donc c'est vrai que c'est surprenant. Donc moi, je conteste pas du tout cette approche de la mairie de vouloir aider des personnes sur des points de tremplin pour reprendre pied. Et nous, aujourd'hui, on aimerait pouvoir être aidés de cette manière-là. Et on ne le peut pas, d'ailleurs.
Je vais vous dire, ça ne passera que par, ça ne passera que par ce qui se raconte ce soir. Il y a des oreilles toujours qui ouais. traînent hein, sur cette libre antenne. Et croyez-moi, demain, je pense que le maire de Vanves, en tout cas ses services de com, vont être parfaitement au courant de ce qui s'est dit sur cette antenne. Et j'en profite pour rajouter, puisqu'ils écouteront, qu'il y a un quotidien qui est prêt à s'emparer de cette histoire. Donc, ils temporisent. Je ne sais pas ce qu'ils font, en fait. Hein. On ne sait pas ce qu'ils font. Hein. Peut-être l'administration.
Mais en fait, Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que leur objectif final, c'est de détruire la copropriété. Hein. Ce que vous évoquiez, le fait de faire des logements d'urgence et des logements sociaux, en fait, c'est l'objectif final, en fait, c'est de raser tous les immeubles qui sont sur cette zone, en fait, pour un projet immobilier qui n'est pas défini, qui n'est pas publié, qui est dans les dossiers de la mairie, auquel on a demandé d'avoir accès à plusieurs reprises et qui est dans une opacité incroyable.
Mmh. Mais un jour, l'opacité s'évapore. Et si ce que vous dites est vrai, Mylène, nous serons encore là pour pointer du doigt quelque chose qui, là, frôle... et frôle le hors limite, on va dire, hein, est un peu borderline. Merci en tout cas et courage à vous et
merci
au vôtre,
Olivier, et merci à votre équipe qui fait preuve de beaucoup d'écoute et de compassion et ça apporte un peu de réconfort dans la difficulté qu'on traverse de savoir que notre histoire trouve un peu d'écho et de relais auprès de vous.
J'ai cité un quotidien, en tout cas, je vous dirai pas, on vous le dira hors antenne, mais est-ce que vous êtes adressé à la presse locale? Vous avez essayé de contacter des journalistes, de leur dire...
J'ai rencontré cet été une journaliste locale qui m'a interviewée, avec qui je me suis entretenue très longuement, plus d'une heure, qui est venue... chez moi, avec qui j'ai vraiment échangé, qui s'est entretenu avec monsieur le maire et avec son adjointe. Bizarrement, alors que je sentais que le sujet, en tout cas, la touchait, ou en tout cas qu'elle sentait qu'il y avait peut-être quelque chose ou une histoire à écrire pour aussi peut-être... parler de la façon dont les aménagements se passaient en périphérie du Grand Paris, etc., et qu'il y avait peut-être quelque chose qui méritait d'être porté à l'attention de tous. Bizarrement, une fois que le rendez-vous, l'entretien a eu lieu avec Monsieur Gaudichaud, malheureusement, notre histoire était trop personnelle pour être publiée.
Bon, enfin, en tout cas, tenez bon, et on est là, Mylène.
Donc, voilà. Mais en tout cas, je vous remercie de porter à la connaissance de tous des histoires personnelles qui aussi peuvent peut-être un jour concerner d'autres personnes et
voir comment on peut mener le combat. Ouais. Courage à vous, Mylène.
Merci, Olivier.
Bonne soirée à vous. Au revoir.
Au revoir.